Vous écoutez On lit pour vous.
Parkinson, une simple larme pourrait révéler la maladie grâce à ce nouveau capteur. Un texte de Christelle Chérier paru le 16 juillet 2026 dans Futura Science. La maladie de Parkinson progresse souvent silencieusement avant l'apparition des premiers troubles moteurs. Pour tenter de la repérer plus tôt, des chercheurs explorent aujourd'hui une piste étonnante. Identifier les déséquilibres en dopamine dans les larmes. Et si quelques larmes suffisaient un jour à obtenir des informations sur la santé de notre cerveau? Des chercheurs brésiliens ont conçu un petit capteur capable de mesurer la dopamine dans le liquide lacrymal, sans aiguille ni prélèvement sanguin. Présenté dans une étude publiée dans la revue ACS Omega, cette technologie pourrait ouvrir la voie à une surveillance plus simple de certaines maladies neurologiques, dont la maladie de Parkinson. Un capteur en graphène pour mesurer la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur impliqué notamment dans le contrôle des mouvements, l'apprentissage, la motivation et la régulation des émotions. Dans la maladie de Parkinson, les neurones qui la produisent dégénèrent progressivement dans certaines régions du cerveau. Pour mesurer la dopamine, l'équipe de l'Université fédérale de Pelotas, au Brésil, a créé un capteur électrochimique de la taille d'un timbre-poste. À l'aide d'un laser, les chercheurs ont transformé la surface d'une fine feuille de plastique en une structure de carbone conducteur proche du graphène. Très poreuse, elle offre de nombreuses zones de contact avec les molécules présentes dans les larmes. Les scientifiques ont ensuite ajouté du nickel et de l'urée afin d'agrandir ces pores et de rendre la surface encore plus sensible à la dopamine. Lorsque le neurotransmetteur se dépose sur le capteur, il provoque une réaction chimique qui libère des électrons. Le dispositif transforme alors ce déplacement d'électrons en un signal électrique. Plus la quantité de dopamine présente dans l'échantillon est importante, plus le signal enregistré est intense. Contrairement à certains capteurs biologiques, ce modèle n'a pas besoin d'enzymes pour reconnaître la dopamine. Il pourrait donc être moins coûteux à fabriquer, plus facile à conserver et plus stable dans le temps. Notre objectif est de faciliter la détection ultra-précoce des troubles neurologiques, créant ainsi des opportunités d'intervention clinique avant que les symptômes majeurs ne se manifestent, explique Neftali Lénine Villarreal Carreño, auteur correspondant de l'étude. Des résultats très précis dans des larmes artificielles. Les chercheurs ont ajouté différentes quantités de dopamine à un liquide reproduisant la composition des larmes humaines. Le dispositif est parvenu à repérer des quantités extrêmement faibles de ce neurotransmetteur, jusqu'à 17,86 nanomoles par litre. Les taux de récupération étaient compris entre 99,7 % et 100,1 %. Autrement dit, le capteur a mesuré avec une grande précision la dopamine présente dans les différents échantillons. Les résultats sont restés fiables malgré la présence d'autres substances que l'on retrouve normalement dans les larmes, comme le glucose, l'urée ou certaines protéines. Notre capteur peut détecter la dopamine depuis des concentrations très inférieures au niveau de référence chez une personne en bonne santé jusqu'à des niveaux trois fois supérieurs, précise Lucas Minghini-Gonsalves, co-auteur de l'étude. La méthode pourrait, à terme, contribuer au suivi de maladies associées à des modifications du système dopaminergique, comme Parkinson, mais aussi de certains troubles psychiatriques comme la schizophrénie. Les larmes présentent ici un avantage évident. Elles peuvent être recueillies rapidement, sans douleur et sans procédure invasive. Les chercheurs envisagent désormais des études sur des larmes humaines et le développement d'un appareil utilisable directement au chevet du patient. Une étape indispensable pour savoir si cette technologie prometteuse peut réellement devenir un outil de dépistage ou de suivi clinique. C'était Parkinson, une simple larme pourrait révéler la maladie grâce à ce nouveau capteur, un texte de Christelle Chérier paru le 16 juillet 2026 dans Futura Science.
Interdire les réseaux sociaux aux jeunes, est-ce vraiment une bonne idée? Un texte de l'agence Science Presse, paru le 29 juillet 2026, dans InfoBref. Les effets des réseaux sociaux sur les jeunes sont préoccupants et de plus en plus de pays adoptent des lois pour en restreindre l'accès aux mineurs. Cette stratégie comporte toutefois plusieurs lacunes. Ces lois sont difficiles à appliquer et elles peuvent avoir des effets imprévus sur les jeunes. Les dangers que posent les réseaux sociaux pour les jeunes sont bien connus. Une étude réalisée l'an dernier a révélé que les enfants qui y sont actifs sont deux fois plus susceptibles que les autres de présenter des symptômes de dépression ou d'anxiété. En réaction à ces préoccupations grandissantes, des pays ont décidé d'agir. L'Australie a été, en décembre 2025, le premier pays à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La loi australienne exige maintenant des entreprises qu'elles prennent des mesures raisonnables pour empêcher les jeunes d'utiliser leurs plateformes. La France a adopté en juillet une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette mesure s'appliquera dès septembre pour les nouveaux comptes. Les comptes existants devront être fermés d'ici janvier prochain. Difficile à mettre en place. L'application de ces lois est toutefois plus compliquée qu'il n'y paraît, selon un rapport sur les effets de la nouvelle réglementation australienne. Les auteurs ont constaté que 7 parents sur 10 affirmaient que leur enfant avait toujours un compte sur Facebook, Instagram, Snapchat ou TikTok. Dans 67% des cas, les jeunes avaient conservé l'accès à l'application parce que l'entreprise n'avait pas encore vérifié leur âge. Un rapport de l'organisme britannique Internet Matters montre que les méthodes utilisées pour vérifier l'âge, comme la reconnaissance faciale, la vérification par une organisation indépendante ou la demande d'une pièce d'identité officielle, sont loin d'être infaillibles. Près de la moitié des enfants britanniques interrogés pour le rapport considéraient qu'il était facile de contourner ces méthodes de vérification. Les jeunes étaient particulièrement imaginatifs. Une mère a raconté avoir surpris son fils qui se dessinait une moustache avec un crayon à maquillage pour tromper, avec succès, une application. Des effets pervers. Par ailleurs, ces lois peuvent avoir des conséquences imprévues. D'abord, la vérification de l'âge implique dans certains cas une collecte de données sur les mineurs, une mine d'informations personnelles attirante pour les cybercriminels. De plus, l'interdiction pure et dure des réseaux sociaux peut placer les jeunes dans des situations difficiles, selon André-Anne Légaré, professeur au service sur les dépendances de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Un enfant victime de cyber-intimidation ou témoin d'une vidéo traumatisante pourrait, explique-t-elle, hésiter à en parler à un parent ou un adulte parce qu'il craint de se faire réprimander. utilité des réseaux sociaux. Mais surtout, les réseaux sociaux ne sont pas qu'un endroit pour se divertir. C'est aussi un espace pour socialiser, apprendre et trouver de l'information, souligne Claudia Del Pozzo dans un article publié sur le site du magazine Wired. La vie numérique constitue une extension de la vraie vie, mentionne-t-elle. Autre moyen d'action. La solution ne serait donc pas, selon elle, d'interdire les réseaux sociaux, mais plutôt de s'assurer que ces plateformes sont sécuritaires. Elle cite l'exemple du Brésil qui demande aux entreprises d'incorporer des contrôles parentaux accessibles, de réduire les caractéristiques addictives, d'être plus transparentes sur le fonctionnement de leurs algorithmes. Aussi, l'éducation a un rôle à jouer puisqu'il est important de développer la littératie numérique des jeunes dans les écoles, insiste Claudia Del Pozzo. C'était « Interdire les réseaux sociaux aux jeunes, est-ce vraiment une bonne idée ?» un texte de l'agence Science Presse, paru le 29 juillet 2026 dans Info Bref.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août. En 1916, l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne. En pleine Première Guerre mondiale, le Royaume d'Italie, déjà en guerre contre l'Autriche-Hongrie depuis 1915, déclare également la guerre à l'Allemagne. Cette décision renforce l'engagement italien aux côtés des puissances de l'Entente. Elle élargit encore davantage le front européen du conflit. L'Italie continuera de combattre sur le front alpin jusqu'à la fin de la guerre en 1918. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août.
Pour ses 45 ans, le Carrefour pour femmes rend hommage à 10 000 survivantes. Un texte de La Rédaction avec les renseignements de Yannick Godin, paru le 5 juillet 2026 dans Radio-Canada Info. Le Carrefour pour femmes au Nouveau-Brunswick a 45 ans. L'organisme à but non lucratif rend hommage aux quelques 10 000 personnes survivantes de la violence basée sur le genre qui sont passés par sa maison de transition depuis 1981. Du 28 juin, date d'anniversaire de l'organisme, au 28 juillet, le Carrefour pour femmes s'est donné pour objectif de recueillir 10 000 $ pour poursuivre une mission qui est toujours pertinente aujourd'hui. La violence basée sur le genre, c'est un problème dans la communauté, même si on ne le voit pas toujours, a expliqué en entrevue, jeudi, la directrice générale Renée Charron. Ça peut être une collègue qui commence à manquer plus de travail. Ça peut être une amie qui, soudainement, ne vient plus souper avec la gang, dit-elle. Ça peut affecter une personne sur trois. C'est définitivement une réalité et on demande à la communauté de participer à notre campagne en offrant un don de 45 $ pour honorer notre anniversaire, plaide la responsable de l'organisme. Le Carrefour pour femmes offre des services d'intervention de crise variés aux survivantes de la violence, basées sur le genre, ainsi qu'à leurs enfants, dans les régions de Moncton et du Sud-Est. Sa maison de transition compte 41 lits, souvent occupés. J'encourage toujours les survivantes à quand même nous appeler. On a d'autres services à l'extérieur de la maison de transition, rappelle Renée Charron. Depuis 1981, le Carrefour a observé une hausse de la demande que la directrice attribue notamment à la hausse récente de la population de Moncton et des environs. Ce qu'on a remarqué dans les derniers 45 ans, c'est qu'il y a de nouvelles formes de violence, note-t-elle par ailleurs. La violence en ligne, le stalking, le harcèlement en ligne. L'engagement envers les personnes faisant face à la violence familiale reste centré sur des ressources qui leur sont essentielles. C'est de pouvoir offrir aux femmes et aux enfants des logements sécuritaires, des services de counseling en santé mentale, des logements abordables, la nourriture, dit René Charron. Malgré ce schéma qui se remarque d'une personne à l'autre, chaque histoire est différente et les besoins sont toujours complexes et uniques, indique-t-elle. Besoin d'aide ? Si vous ou une personne que vous connaissez est en danger, composez le 911. Ligne d'écoute Chimo 1-800-667-5005. Ligne d'information sans frais sur le droit de la famille 1-888-236-2444. Pour trouver une maison d'hébergement pour femmes au Canada, consultez le site web hébergementfemmes.ca. C'était, pour ses 45 ans, le Carrefour pour femmes rend hommage à 10 000 survivantes, un texte de la rédaction avec les renseignements de Yannick Godin, paru le 5 juillet 2026 dans Radio-Canada Info.
Comment gérer l'angoisse de la séparation chez votre enfant? Un texte de la rédaction paru sur le site de l'UNICEF. Ce que vous devez savoir pour accompagner votre tout-petit. Les instants passés loin de votre enfant sont difficiles à vivre pour vous comme pour lui. Chez les jeunes enfants, la séparation peut même créer un sentiment d'inquiétude et de contrariété. Voici quelques signes qui peuvent vous alerter et divers conseils pour aider votre tout-petit à gérer ses émotions intenses, à prendre confiance et à se sentir plus en sécurité. Qu'est-ce que l'angoisse de la séparation? L'angoisse de la séparation se manifeste généralement entre l'âge de 6 mois et 3 ans. Il s'agit d'une étape observée chez de nombreux enfants. Les bébés et les jeunes enfants ressentent parfois de l'anxiété lorsqu'ils ne voient plus leurs parents ou la personne qui s'occupe d'eux, car ils n'ont pas encore pris conscience que ces séparations ne sont que temporaires. Comment savoir si mon enfant est atteint d'angoisse de la séparation? Les signes sont généralement faciles à repérer. Votre enfant pleure beaucoup lorsque vous le déposez à la crèche, par exemple. Cela peut vous mettre la puce à l'oreille. L'angoisse de la séparation se manifeste également par ce type de comportement. Votre enfant se montre plus accaparant lorsque vous devez partir. Il pleure ou s'accroche à vous lorsqu'il se trouve dans une situation nouvelle, principalement entre l'âge de 6 mois et 3 ans. Il refuse de s'endormir si vous ou une autre personne s'occupant habituellement de lui ne restez pas à ses côtés. Il se réveille en pleurant, alors qu'il faisait des nuits complètes. Sachez qu'il est tout à fait normal que votre bébé ou votre tout-petit ressente de l'anxiété lorsque vous n'êtes pas à ses côtés. Faites preuve de douceur et de compassion. Comment puis-je accompagner mon enfant? Vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable lorsque vous devez laisser votre enfant pendant un court laps de temps. Essayez avant tout de l'aider à apprendre comment gérer seul ses émotions. C'est une étape très importante pour l'aider à acquérir une plus grande indépendance. Parlez de ce que vous ferez ensemble à votre retour. L'angoisse de la séparation reflète en partie la peur de ne jamais vous revoir. pour apaiser cette crainte. Expliquez à votre enfant ce que vous avez prévu de faire quand vous vous retrouverez. Quand j'aurai fini de travailler, je viendrai te chercher et nous irons au parc pour faire de la balançoire. Allongez progressivement la durée des séparations. Confiez votre enfant à un proche de confiance pendant que vous allez faire une course rapide et voyez comment votre enfant le vit. Cela lui permettra de s'habituer à votre absence petit à petit. Laissez une peluche ou une couverture à votre enfant pour le réconforter. Votre enfant a-t-il un doudou préféré? Si ce n'est pas le cas, proposez-lui d'en adopter un. Cet objet transitionnel peut aider votre enfant à s'apaiser seul lorsqu'il est contrarié. Rassurez votre enfant lorsqu'il a peur. Lorsque vous êtes ensemble, soyez à l'écoute de votre enfant. Veillez à répondre en faisant toujours preuve de compréhension et de compassion, sans banaliser ses inquiétudes. Prêtez également attention aux signes non verbaux, comme l'agitation ou l'extrême difficulté à se détacher de vous. Habituez progressivement votre enfant aux personnes nouvelles. Si une personne que votre enfant ne connaît pas doit venir s'occuper de lui, prévoyez plusieurs brèves rencontres en votre présence avant de les laisser seuls ensemble. Cela permettra à votre tout-petit de se sentir plus à l'aise lorsque vous devrez vous absenter. N'éternisez pas le moment du départ et adoptez une attitude positive. Dire au revoir est un moment difficile pour votre enfant comme pour vous. Conservez votre calme autant que possible et adoptez une attitude positive au moment du départ. Souriez. Dites à votre enfant que vous revenez bientôt et partez sans prolonger ce moment davantage. Ce rituel rassurera votre enfant. Il s'habituera aux séparations et saura que vous reviendrez toujours le chercher. C'était « Comment gérer l'angoisse de la séparation chez votre enfant », un texte de la rédaction paru sur le site de l'UNICEF.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août. En 1862, seconde bataille de Bull Run. Pendant la guerre de Sécession, l'armée confédérée du général Robert E. Lee inflige une défaite sévère aux forces de l'Union commandées par le général John Pope en Virginie. Cette victoire confédérée ouvre la voie à la première invasion du Nord par les troupes sudistes. La bataille fait plusieurs milliers de victimes des deux côtés. Elle confirme le talent tactique de Lee, qui devient alors l'une des figures militaires les plus redoutées du conflit. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août.
Voici pourquoi les hommes devraient s'asseoir pour uriner. Un texte de Destination Santé et Futura, paru le 1er août 2026 dans Futura Science. Pour de très nombreux hommes, quoi de plus naturel que d'uriner debout? Pourtant, adopter une position assise présente certains avantages, notamment pour la santé. Uriner est l'un des gestes les plus naturels qui soient. Beaucoup d'hommes le font sans réfléchir, ni même se soucier de leur posture. Pourtant, faire pipi assis plutôt que debout pourrait présenter bien des avantages. Une meilleure vidange de la vessie. Plusieurs études ont déjà comparé la position assise au fait d'être debout au moment de la miction. Résultat, la première permet de détendre les muscles du plancher pelvien et ainsi une meilleure vidange. Sans oublier qu'en position debout, certains poussent inconsciemment, ce qui, à terme, peut provoquer des douleurs pelviennes, des tensions. Ceci est particulièrement bénéfique pour les hommes souffrant d'affections telles que l'hypersplasie bénigne de la prostate, volume anormalement important, qui peut rendre le simple fait d'uriner difficile. Une bonne santé prostatique. Car oui, la prostate grossit naturellement avec l'âge, ce qui peut devenir un facteur de contrainte pour la vessie et les voies urinaires. En position assise, les muscles de la prostate sont plus relâchés, ce qui facilite le départ de l'urine et réduit la pression mécanique sur la glande. Cela peut rendre la miction plus confortable et ne plus représenter un moment redoutable pour certains. Si vous avez des problèmes d'équilibre, pour certaines personnes, notamment les seniors ou celles ayant des problèmes d'équilibre, uriner debout peut représenter un risque de chute. S'asseoir offre une position plus stable et sécurisante, particulièrement en cas de fatigue, de vertige ou de mobilité réduite, ou tout simplement la nuit, lorsque l'on ne veut pas allumer la lumière pour ne pas réveiller le reste de la famille. Une question de propreté. Souvent évoquée avec humour, uriner assis limite les éclaboussures. Même si vous pensez être un excellent viseur, des projections invisibles peuvent salir les toilettes et leur environnement. La position assise permet donc de maintenir une meilleure hygiène. Quand la position debout reste acceptable. Mais, vous l'avez compris, uriner assis est un choix personnel et n'est pas obligatoire pour tous. Par exemple, si vous ne rencontrez aucune difficulté de vidange. Et dans certains cas, aux urinoirs des lieux publics, la position debout peut même être un gain de temps. C'était « Voici pourquoi les hommes devraient s'asseoir pour uriner », un texte de Destination Santé et Futura, paru le 1er août 2026 dans Futura Science.